Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie pour un nouvel éclairage. Un éclairage particulièrement dans l'actualité, puisque je reçois le professeur Philippe Dessertine. Philippe Dessertine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté le principe de cette rencontre. En quelques mots, je vous présente, mais vous êtes un grand habitué des médias. Je crois que personne n'ignore votre expertise dans ce domaine. Alors, je rappelle que vous êtes professeur agrégé à Paris 10 Nanterre. Vous êtes docteur en finance, directeur du CEROS. Le CEROS, c'est un centre de recherche.
Absolument.
Vous êtes aussi directeur général de l'Institut de haute finance. Et vous êtes le vice-président du Cercle Turgot, cercle dans lequel vous avez tout récemment prononcé un discours, une intervention sur la notation financière, ce thème que nous reprenons aujourd'hui dans notre rencontre. En quelques mots, la crise financière mondiale a mis en accusation trois acteurs. Hier florissant, les institutions financières, en particulier les banques d'investissement tout particulièrement, les organes de régulation et les agences de notation. Donc nous sommes au cœur du sujet. La Commission européenne a par exemple souhaité enquêter sur les rôles et les responsabilités dans ce séisme gigantesque, quand même, qui n'a jamais eu de précédent, me semble-t-il, au moins au niveau des montants, de la planète finance. Principalement sur leur manque de réactivité pour diffuser des informations conformes et exactes, traduisant la réalité des risques attachés aux titres de crédit ou d'épargne, qu'elles sont par ailleurs censées mesurer. Alors, nous allons bien sûr revenir sur ces différents points. Avant, peut-être, je voudrais vous demander de nous dresser un tableau de situation, en tout cas au moment T, de la crise financière, et particulièrement sur les espoirs ou les espérances que le plan Paulson peut faire naître. Alors, à votre avis, on en est où dans la crise financière ?
Alors, avec l'Institut de haute finance, la semaine dernière, nous étions encore à New York, où nous avons vécu, en effet, ces moments qui sont vraiment des moments historiques. Historiques, bien sûr, sur le plan de la finance, sur le plan de l'économie, mais probablement sur le plan de l'histoire tout court, car nous sommes en train de vivre vraiment ce qui apparaîtra probablement dans le futur comme étant une sorte de tournant dans la manière dont le monde est organisé, et pas simplement dans l'économie. Donc, nous avons connu au cours des deux, trois dernières semaines une intensification, puisqu'il est difficile de trouver les mots qui conviennent lorsqu'on évoque un processus qui a commencé déjà depuis plus d'un an, presque un an et demi, une intensification de la crise boursière, c'est-à-dire des problèmes autour des grandes institutions financières, en particulier, vous l'avez dit, des banques d'investissement, mais pas seulement. En particulier, on a eu ce problème autour du géant de l'assurance, de l'ancien numéro mondial AIG, qui s'est retrouvé en situation extrêmement difficile. Et on a eu avant, je dirais, deux agences extrêmement importantes dans la finance américaine qui s'appellent Freddie Mac et Fannie Mae, qui se sont trouvées en quasi-liquidité absolue, enfin en quasi-risque absolu, d'où l'intervention des pouvoirs publics américains, d'où la nationalisation de fait de ces deux institutions. Et puis donc a suivi l'affaire de Lehman Brothers, la question autour de Merrill Lynch, les différentes grandes banques des États-Unis, des grandes banques d'investissement qui, toutes les unes après les autres, se sont trouvées extrêmement fragilisées, si bien qu'on a craint l'effondrement complet de Wall Street, de la finance mondiale autour de cette période de septembre 2008. Il y a un parallèle à faire très très clairement entre, on va dire, le 11 septembre 2001 et septembre 2008, qui sont le début et la fin de la mandature Bush, des deux mandats de Bush, qui sont les deux moments de l'impensable, où on voit vraiment s'effondrer la puissance américaine, symboliquement en 2001, et peut-être de manière très concrète en cet automne, ou en tout cas en cette fin d'été 2008. Donc ça, c'était la crise boursière qu'on a tenté de juguler par tous les moyens, y compris par cette chose absolument extraordinaire qu'a été le plan Paulson. Je dis bien extraordinaire, c'est-à-dire inimaginable, impensable. Les qualificatifs manquent en ce moment autour de Wall Street, puisqu'on a été à l'encontre de tous les principes de la civilisation américaine, dans ce qu'elle a de plus profond, dans les principes des pères fondateurs, des cinq grands présidents, premiers présidents des États-Unis, avec une intervention massive de l'État.
Donc on a oublié l'aléa moral.
On a oublié l'aller au moral, on a oublié beaucoup de choses. On a oublié que, n'oublions pas les États-Unis, et ça, ce sont des choses du point de vue historique que vos auditeurs et vos auditeurs cultivés probablement savent. Les États-Unis se sont constitués, le pays s'est constitué autour du problème de la fiscalité, c'est-à-dire autour du problème d'une fiscalité que le Royaume-Uni, à l'époque puissance colonisatrice, faisait supporter à ses colons du fait d'un financement de la guerre. Les parallèles sont relativement forts avec ce qui se passe aujourd'hui. Les États-Unis sont construits autour de cette idée que la pression fiscale ne doit pas être trop forte, que l'État fédéral ne doit pas être trop puissant, ouais. Qu'il doit y avoir une vraie liberté dans le mode de fonctionnement de l'individu et dans le mode de fonctionnement des affaires. Ce sont les idées centrales de la Constitution des États-Unis.
Qui sont totalement remis en cause.
Et tout ça est balayé par le lointain successeur, et vraiment alors très très lointain en termes des idées, du premier secrétaire d'État au Trésor, qui était le mythique Emerson, que l'on retrouve ouais. D'ailleurs sur certains billets américains, ouais. Sur certains dollars américains, Paulson, aujourd'hui devenu par intérim le président des États-Unis. On pourrait dire, puisque c'est lui qui a pris ses décisions. Aujourd'hui, il a réussi à juguler, mais à quel prix et peut-être pour combien de temps, la crise boursière. La crise financière prend une intensité absolument dramatique et n'est loin, loin d'être terminée. On annonce des séismes encore plus forts dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Et surtout, nous avons pour la fin de l'année, à la fin des effets du plan Bush, qui a été une réinjection de dollars dans l'économie par un plan fiscal, le risque d'avoir réellement la récession qui commence. Et là, aujourd'hui, tous les experts convergent et le discours du président Bush, donc lorsqu'il a repris la parole le 24 septembre ou le 25, on va dire, en heure de Paris, le discours du président Bush était de ce point de vue extrêmement inquiétant puisqu'il parlait bien d'une récession, d'un risque de ralentissement, voire même de mise en danger profond de l'économie américaine tout entière, c'est-à-dire la vraie crise économique qui arrive. On peut peut-être utiliser un terme qu'on avait oublié depuis 1929, la vraie dépression, ce qui serait absolument dramatique. Ouais. Et pour les États-Unis et pour le reste du monde.
Donc, vous, ce que vous êtes en train de dire, j'espère que...
Je me trompe.
Que, en tout cas, au moins partiellement, c'est que, contrairement à une thèse qui a été développée à plusieurs reprises, comme quoi ce n'était absolument pas la reproduction de la crise de 1929 et que les fondamentaux n'avaient rien à voir, vous êtes en train de dire que de plus en plus et plus on avance, plus la ressemblance et les similitudes sont fortes.
Nous avons eu, alors, vous voyez, malheureusement, j'aimerais être le seul dans ce cas. Malheureusement, dans mon camp, de plus en plus de monde et des gens quand même avec une certaine influence. Alors, je pense en particulier à la déclaration d'Alan Greenspan la semaine dernière, ou il y a un peu plus d'une semaine, oui, qui disait « Cette crise économique et cette crise financière est l'événement le plus grave que j'ai jamais vécu de ma vie. » Il a connu 73, 79, etc. Il dit « C'est la crise la plus grave qu'on ait jamais connue depuis 50 ans. » Il s'est repris, il a dit « C'est sans doute la crise la plus grave qu'on ait jamais connu depuis plus d'un siècle. » Or, évidemment, immédiatement, pour tous les commentateurs, on a dit, 29, dans ce siècle, 29. Il y avait 29. Donc, on est bien dans quelque chose de plus grave. Il y a des différences fortes avec la crise de 29. Malheureusement, elles ne sont pas forcément en faveur de la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui risquent d'entraîner des conditions plus défavorables, des espèces d'enchaînements encore plus défavorables que ce qu'on avait connu en 29. On a aussi évidemment des armes différentes. On a d'abord le recul par rapport à ce qui s'était passé. On le voit dans l'action des banques centrales et du Trésor aux États-Unis et en Europe vis-à-vis de cette crise. Malheureusement, ces réactions, pour le moment, il faut bien être clair, ce sont des réactions qui n'ont pas entraîné un retournement et a priori même qui sont loin de pouvoir le faire aujourd'hui.
Le retour de la confiance, mais est-ce que ça ne tient pas au fait que les politiques n'ont pas encore entériné le plan et que pour l'instant la discussion continue ? Est-ce qu'on ne peut pas espérer que le phénomène déclencheur d'un retour à une certaine situation un peu plus normale, un retour de confiance, ce n'est pas le vote. Et le vote par le Parlement,
on a plusieurs problèmes.
Par le Congrès.
Plusieurs problèmes. On a le problème effectivement de la manière dont cette chose va pouvoir se faire au Congrès, avec d'ailleurs un calendrier très limité, puisque logiquement la session du Congrès constitutionnellement doit s'arrêter vendredi. Or, voter un plan d'une telle importance à la va-vite, ça pose de grandes difficultés et ça explique pourquoi probablement on a des tensions au plus haut niveau de l'État américain actuellement en ce qui concerne ce vote, qui logiquement allait de soi. Mmh. Donc ça, c'est effectivement un problème technique qui peut se poser. Mais Jean-Louis Chambon, ce n'est pas un banquier comme vous, un ancien banquier, que je vais apprendre ce genre de choses. Le plan Paulson n'est rien plus que creuser un trou pour en combler un autre. Ouais. C'est-à-dire les pertes de 700 milliards, il y a bien un moment donné où il va falloir les solder. D'autant que ces pertes de 700 milliards probablement ne sont pas la totalité des pertes que va devoir supporter le système financier. Donc ça signifie que d'une manière ou d'une autre, il y aura des conséquences. Les marchés boursiers au début, avait réagi positivement, c'est-à-dire la perte est transférée vers l'État. Ça signifie que si vous êtes détenteur d'actions, vous perdrez moins. Donc les marchés financiers remontent un peu, ce qu'on disait tout à l'heure. La crise boursière est jugulée par ce phénomène, mais absolument pas la crise financière. Les pertes sont toujours là, il va falloir les assumer, il va falloir que l'économie mondiale, entre guillemets, les encaisse, ou peut-être d'ailleurs, ce qui conviendrait mieux, les décaisse. À un moment donné, ces pertes, il va falloir les solder. On est là, Dominique Strauss-Kahn, pour reprendre d'autres autorités importantes de la finance internationale, avait dit, nous sommes entrés dans une phase de grande purge, et cette purge, il va falloir la faire jusqu'au bout.
Ça va d'abord coûter aux contribuables américains, qui a déjà, je ne sais combien, je crois que c'est de l'ordre de 50 000 $ sur la tête par rapport à la dette. Chaque contribuable américain a quelque chose comme 50 000 $ sur sa tête par rapport à la dette américaine, auquel il va falloir ajouter une dizaine de milliers de dollars.
C'est, bah,
au bas mot.
Eh bien oui.
Donc, ont-ils la capacité de payer ou pas ?
La réponse va être clairement non. La réponse va être clairement qu'il va falloir chercher des financements ailleurs et que là, on n'est qu'au début des problèmes. Et donc, effectivement, de toute façon, on ne peut pas puiser comme ça sans arrêt en disant l'État fédéral continue à inonder l'économie de crédits quand il y en a besoin. Rappelons-le, sous la mandature Clinton, nous avions des finances publiques qui étaient à l'équilibre aux États-Unis. Aujourd'hui, on est dans des sommes astronomiques en ce qui concerne le déficit cumulé américain. Les États-Unis n'ont plus les moyens d'assumer cette intervention à l'intérieur de l'économie. Et donc, soit on aura la capacité d'aller chercher de l'argent ailleurs, mais de l'argent ailleurs, ça veut dire qu'il sera plus consacré à d'autres pans de l'économie mondiale. Ça signifie que l'économie mondiale, dans son ensemble, va ralentir très très fortement pour pouvoir absorber ces pertes considérables qu'on lui demandera de financer d'une façon ou d'une autre, ou si elle ne le peut pas, eh bien, on aura peut-être un ralentissement qui sera encore plus dramatique dans certaines régions du monde. Nous en sommes là avec beaucoup plus de questions aujourd'hui que réellement de réponses. Le plan Paulson n'étant simplement qu'une manière d'avoir arrêté, jugulé pendant quelques temps la crise boursière, dans l'espoir probablement de revenir à un certain calme avant les élections. Je crains que cet objectif ne soit pas réellement atteint.
Oui, donc... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en définitive, rechercher les boucs émissaires et la responsabilité, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le problème de l'heure, c'est plutôt de trouver de l'argent là où il n'y en a plus. Mais bon, il n'empêche qu'on va revenir sur le centre de notre sujet, à savoir les boucs émissaires. Il y en a qui sont tout à fait identifiés, bien entendu. Le système bancaire dans son intégrité, Greenspan peut-être aussi par sa politique monétaire accommodante. Mais enfin bon, et en tout cas, il y a donc un troisième acteur qui, celui-là, est beaucoup moins connu. Alors il faudrait peut-être que vous nous rappeliez un petit peu ce que sont les agences de notation, quelle est leur vocation, leur mission, combien sont-ils, pour voir en quoi leur responsabilité peut être engagée, au moins d'un point de vue moral.
Tout à fait. Alors, je crois que vous avez raison. On a eu pendant de nombreux mois, depuis le départ de démarrage de cette crise, de manière explicite au mois d'août 2007, mais même un peu avant, on a eu une politique générale, d'ailleurs en France et ailleurs, de la langue de bois. C'est-à-dire sans arrêt en disant « mais cette crise, c'est simplement un ajustement normal du système » ou « cette crise est maintenant derrière nous ».
Oui, c'est une régulation.
C'est une régulation, etc. Puis peu à peu, on voyait que les faits démentaient de plus en plus cette tranquillité ou cette apparence bonhomie qui était faite, bien entendu, pour essayer de maintenir la croissance ou parfois d'ailleurs d'essayer à certaines personnes de se maintenir en place, tout simplement. Ça n'a pas suffi, l'explication était trop courte. Après cette politique, on va dire, cette approche un peu langue de bois en disant « ça n'est pas la crise que vous croyez » ou « ce n'est pas la crise que vous craignez », aujourd'hui, on est obligé de se rendre compte que oui, c'est très grave et même les gens qui, au départ, pouvaient avoir un discours un peu lénifiant l'ont modifié complètement. On évoquait tout à l'heure d'ailleurs Greenspan, il en fait partie au premier plan. Aujourd'hui, on est dans une autre approche qui peut être effectivement de dire « recherchons ou en tout cas signalons à la vindicte populaire qui sont les responsables, les boucs émissaires ».
Ça rejoint d'ailleurs l'approche de la macro-psychanalyse d'un auteur bien connu, dont nous avons reçu ici sur cette antenne, de la macro-psychanalyse de Vivien Garbois, dans laquelle il dit qu'effectivement, dans une des phases de la crise, la première de ces phases, c'est la recherche de boucs émissaires. Ce qui d'ailleurs ne résout rien. Mais enfin, c'est en tout cas, d'un point de vue de la psychanalyse, la réponse normale de tout groupe.
Exactement, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les grandes crises autres qu'économiques, c'est-à-dire la nécessité à certains moments de brûler des sorcières ou des chats noirs en disant nous avons réglé le problème ou en tout cas nous avons trouvé les coupables.
Grosse erreur, oui.
En général, oui, c'est-à-dire ça ne suffit pas. Eh bien là, ici, en effet, avec cette crise, nous avons eu, et alors là, c'est d'autant plus important de l'évoquer que là, il s'agit de boucs émissaires qui ont été désignés notamment par les Européens et en particulier par les Français, par les plus hautes autorités françaises, chose, c'est-à-dire les agences de notation. Alors, les agences de notation sont en effet dans le système financier un acteur extrêmement important et pas toujours très connu du grand public. Pour les situer ou pour situer trois noms importants, puisque ce sont les trois principales agences, les trois grands noms à connaître, c'est Moody's et Standard & Poor's, donc également appelé S&P, et le troisième étant Fitch. Fitch, agence d'ailleurs liée, donc est une agence d'origine américaine et qui est la troisième agence mondiale, liée très très fortement à la France, puisque c'est une agence qui est contrôlée par Marc Landré de la Charrière.
Ouais, et, à travers Fimalac.
Et Fimalac, voilà, qui est la financière Marc Landré de la Charrière, qui est une société cotée. Donc on est avec ces trois grands acteurs qui, grosso modo, se partagent l'essentiel du marché mondial de la notation. Ces agences sont des agences privées. Ce sont des agences qui, à l'origine d'ailleurs, étaient des agences d'information financière à Wall Street, qui sont souvent assez anciennes. Par exemple, Moody's, c'était John Moody qui avait créé un journal qui donnait des informations et qui, peu à peu, voyait apprécier les différents acteurs de Wall Street. Mais on vous parle du début du siècle, du 20e siècle.
Mais le grand revirement, c'est qu'à l'origine, c'était de l'information. Alors, ils pouvaient vendre de l'information, mais ils n'étaient pas missionnés pour noter.
C'est-à-dire que peu à peu, vous voyez, c'est ce que vos auditeurs peut-être peuvent connaître lorsqu'ils font de l'investissement financier. Ils vont lire des journaux, ils vont voir des gens qui vont dire acheter, vendre, je recommande, je ne recommande pas. Eh bien, les agences de notation, elles sont nées exactement de cette idée progressive en disant on va raffiner au lieu de dire oui, non, acheter, vendez, on va commencer à mieux représenter l'appréciation que nous avons des différents acteurs. Ces agences, quand elles se sont réellement constituées en termes de notation, se sont spécialisées de plus en plus dans la question de la dette, dans la manière dont on doit apprécier la qualité d'un émetteur de dette, c'est-à-dire dans la qualité d'un emprunteur, pour regarder si, oui ou non, cet emprunteur a la capacité de payer les intérêts et de rembourser le principal de sa dette. Donc ça a été peu à peu l'évolution des agences de notation. C'est toujours cet élément-là, effectivement, qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que les agences de notation vous permettent de savoir si un émetteur, quel qu'il soit, que ce soit une entreprise ou que ce soit un État ou une institution internationale. Évidemment, elle pourrait le faire aussi avec des particuliers, mais on va dire là, le processus serait un tout petit peu long et souvent est réalisé par les banques elles-mêmes, mais sur des principes assez proches. Donc, par rapport à cet emprunteur, regardez s'il a la capacité de rembourser, s'il a la capacité de payer les intérêts. Lorsque l'on note au plus haut un émetteur de dette, cela signifie qu'on va considérer qu'il a très peu de chances. Attention, on n'est jamais à 100% de chance.
Le risque zéro n'existe pas.
Oui, exactement. Le financier est quand même toujours prudent. Il a très, très peu de chances, donc on va dire 0,5% de chances d'être défaillant à la fin du contrat. Donc, c'est ça que signifie la note. Donc, ces notes, peut-être, on en a entendu parler. Vous voyez ce qu'on appelle triple A, la meilleure note, ou A+, A+, vous avez des différences, tout petit peu de...
Des nuances,
mais en réalité, c'est toujours le même principe, qui est d'ailleurs basé sur la notation telle qu'on la pratique dans les écoles américaines. Ouais. On ne note pas sur 20, mais on note A, B, C, D, E, de temps en temps, quand vraiment, ce n'est pas bon. Donc, on va dire A, vous voyez, étant la meilleure note, c'est le très, très bon élève. Ça veut dire qu'il y a très, très peu de chances que cet émetteur de dette soit en défaillance d'ici la fin de sa dette. Donc, les agences de notation ont pris peu à peu une importance dans le monde financier parce que c'est une sorte de garantie qu'elles ont apportée par leur savoir-faire, par le développement de leurs outils à l'environnement financier en disant, nous, on vous dit qu'en regardant, en observant de façon neutre cet acteur économique, nous estimons qu'il ne sera pas défaillant. Évidemment, pour quelqu'un qui va chercher à placer son argent, c'est une garantie extrêmement forte qu'elles apportent et qui est donc devenue de plus en plus incontournable. Alors, voilà, donc ça, c'est le paysage tel qu'on peut le planter dans la théorie.
Donc on a bien vu ce qu'était maintenant, vous avez présenté ce que c'était les missions des agences de notation. Alors, si vous voulez bien, après une pause de quelques minutes, nous allons regarder en quoi elles sont sorties de leur mission ou elles sont devenues fautives.
Percer le secret des chevaliers teutoniques, ordre hospitalier du XIIe siècle, dans l'émission « Un jour dans l'histoire ». Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Chers amis, donc nous sommes aujourd'hui avec Philippe Dessertine, professeur d'université, grand spécialiste financier, expert en finance. Et nous traitons avec lui de la problématique des agences de notation financière. de leur mission et surtout de leur responsabilité dans la crise. Alors, Philippe, vous venez de nous présenter les missions principales de ces agences de notation. On voit bien quelle est leur utilité. En quoi ont-elles failli ?
Alors, d'abord...
Ont-elles failli ?
Voilà, pourraient-elles avoir failli, hein, ah, puisque d'accord. Là, il faut peut-être nuancer d'ores et déjà la question. Bon, d'abord, première chose, ce sont des agences privées, on le disait, donc ça veut dire qu'elles cherchent des clients. Par qui sont payées ces agences ? Elles sont payées par l'émetteur de la dette, c'est-à-dire quand la France va émettre, par exemple, de la dette publique, elle va payer Moody's et Standard & Poor's, en général les deux leaders, éventuellement Fitch aussi, mais enfin la France sera généralement avec les deux qu'on vient d'évoquer, elle va leur payer l'analyse que va faire l'agence sur la capacité de la France, de l'État français, à rembourser la dette.
Mais alors, est-ce qu'elles ne sont pas immédiatement placées en conflit d'intérêts ?
Alors voilà, donc ça c'est une vraie question qui a été posée, qui est posée depuis longtemps, c'est le double conflit d'intérêts qui peut exister. Donc le premier évident, c'est de dire que si l'agence note mal, eh bien elle aura la difficulté de retrouver le client pour une prochaine émission. Deuxième conflit d'intérêts, comme elle propose également d'autres services, si elle note mal, elle risque de perdre les services annexes qu'elle va pouvoir proposer aux émetteurs. Cette critique, il faut bien le dire, tombe très rapidement. Ces grandes agences, effectivement, sont peu nombreuses. Donc là, il y a peut-être un problème en termes de concurrence, mais néanmoins, elles ne peuvent se permettre d'avoir le moindre risque, le moindre doute sur leur neutralité. Et on va dire, elles ont un portefeuille tellement important d'emprunteurs que si elles avaient un conflit d'intérêts qui s'avérait réel avec l'un d'entre eux, elles perdraient énormément d'un autre point de vue et qui ferait que le calcul ne serait pas bon.
Donc elles ont un risque de réputation très fort et donc quelque part,
Standard & Poor's avait ainsi assuré les autorités américaines, preuve à l'appui, qu'aucun de ses clients ne représentait plus de 2% de sa marge. Donc, ce qui signifiait évidemment que la diversité était telle qu'il ne pouvait pas, que l'agence ne pouvait pas avoir un risque de collusion avec l'un des opérateurs. Donc, je dirais que cette critique est évidente. Elle ne tient pas tellement du point de vue de l'examen pratique. Et là, en l'occurrence, alors je m'appuie sur de nombreuses recherches scientifiques qui ont été élaborées sur la question. Il est clair quand même qu'une concurrence un peu plus forte serait bonne. Et que là, les autorités américaines en particulier, les autorités européennes, ont réfléchi sur la possibilité d'avoir de nouvelles agences qui rentreraient dans le marché. Mais là encore, ce métier est un métier d'une complexité extrême. Ces agences ont développé notamment des modèles, par exemple, de prévision des flux financiers, ce qu'on appelle des prévisions de cash flow, qui sont des modèles propres. Elles ne s'appuient pas sur ce que va dire l'émetteur. Et quand si on continue l'exemple de l'État, elles ne vont pas regarder sur les prévisions qu'a fait Bercy pour l'entrée et la sortie d'argent. Elles vont travailler elles-mêmes sur leur propre modèle et regarder si ça fonctionne. Ce sont des investissements qui coûtent très cher, qui prennent beaucoup de temps, qui nécessitent beaucoup, beaucoup de personnel et qui, évidemment, ne sont pas à la portée d'un nouvel entrant sur le marché. Donc, la question de la concurrence est certainement un problème
réel. Donc, le marché, en quelque sorte, fermé par le prix à l'entrée.
Absolument. Alors, deuxième critique qu'on a formulée à l'encontre des agences de notation, qui est une critique là aussi assez réelle, mais difficile à contourner, c'est ce qu'on a appelé en anglais, voyez, alors évidemment, à l'Académie, on va peut-être essayer d'éviter les termes en anglais, mais...
On peut, vous serez pardonné.
En finance, souvent, on a des difficultés de traduction, en l'occurrence d'ailleurs, on pourrait le faire quand même, c'est-à-dire on dit « through the cycle », c'est-à-dire on dit « elles ont des modèles qui sont... » à l'intérieur du cycle, qui ne peuvent pas être à contre-cycle. Et donc, par conséquent, lorsque tout va bien, ce sont des modèles qui tournent très bien, mais lorsque tout va mal, ce sont des modèles qui ont une force prédictive très faible. Donc ça, c'est effectivement une critique et un vrai problème en termes de méthodologie des agences de notation.
Et donc, c'est technique, en quelque
sorte. Là, vraiment, très technique sur les outils qu'elles utilisent. Alors, elles ont essayé, on a testé, on travaille beaucoup sur ces questions, et on s'aperçoit que c'est très difficile, parce que quand on utilise des modèles alternatifs, notamment quand les choses vont bien, on risque d'avoir des effets induit défavorable très important et en particulier d'ailleurs le risque de pousser les marchés à fonctionner à court terme, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire que lorsque vous allez sans arrêt regarder quel est le risque global si on était à contre-cycle, alors par exemple, vous voyez, sans partir sur les réflexions autour de la crise, mais les agences sont rentrées depuis longtemps le risque par exemple d'un tremblement de terre en Californie qui aurait des influences très très fortes sur l'économie planétaire. Bon, mais si vous faites entrer de manière trop forte ce facteur-là alors qu'il ne se produit pas, vous risquez de pousser l'ensemble des économistes, c'est-à-dire attention, enfin, ou des acteurs de l'économie, de dire retirons vite notre argent au cas où il y aurait un tremblement de terre, ce qui n'est pas le but du tout recherché. Oui. Donc cette idée de l'outil et du problème de l'outil, c'est vraiment une idée importante mais très complexe lorsqu'on va essayer de la résoudre. Alors, la troisième critique est là, qui se rapporte plus à celle qu'a adressée le président de la République, puisque je n'avais pas évoqué tout à l'heure, mais qu'il a adressée nommément aux agences de notation, et en particulier également son ministre de l'économie, Madame Lagarde, sur le fait que les agences, d'une part, n'étaient pas indépendantes, ça a été évoqué, et d'autre part, donc, avaient été, entre guillemets, dévoyées par l'évolution de la finance. Alors, là, effectivement, se pose un problème. Le problème qui a été posé par la titrisation, c'est-à-dire par la gigantesque évolution de la finance mondiale, cherchant à modifier son positionnement par rapport à la dette en circulation, et en particulier par rapport à l'excès de dette. Ce qui est vrai, ce qui s'est produit, c'est que les agences de notation étant très importantes pour la confiance des investisseurs, peu à peu la finance a commencé à réfléchir, non plus en fonction de ses propres produits, mais en fonction du modèle des agences. C'est-à-dire qu'on a construit des produits financiers pour qu'ils soient notés AAA. Alors, vous voyez, évidemment...
Donc, c'est l'inversion totale de la problématique.
Exactement. Il y a eu une inversion progressive et totale, et sur des montants absolument astronomiques, de la manière dont devaient être utilisées ou devaient fonctionner les agences dans l'économie mondiale. C'est-à-dire, en effet, ce que l'on disait tout à l'heure, on construit et on a construit des produits financiers qui ont été mis sur les marchés et qui représentent des milliers de milliards de dollars. Ils ont été construits avec une finalité, c'était d'être notés AAA. Et effectivement, d'ailleurs, ils étaient notés AAA, c'est-à-dire on avait bien anticipé les modèles et les agences regardaient, disaient, il n'y a pas de doute pour moi, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et bien entendu, en étant très limité sur l'objectif de l'agence, l'agence ne disait pas attention, si jamais il y a une chute de l'immobilier, il y aura problème. Elle dit, ah, pour moi, là, les garanties qui sont prises font que la probabilité qu'il y ait défaillance est très faible, donc par conséquent, je note AAA. Donc, ce qui a fait quoi ? Ce qui a fait qu'on a eu un modèle qui est devenu un modèle de plus en plus axé sur l'agence, faisant de l'agence un acteur qu'elle n'aurait pas dû être, un acteur, on va dire, central et en quelque sorte en amont de la chaîne alors qu'elle devrait être en aval, et d'autre part qui a conduit les agences, lorsque tout d'un coup la conjoncture s'est avérée différente, en particulier sur l'immobilier, à dégrader très vite l'ensemble de ces produits qui avaient été constitués, ce qu'on disait tout à l'heure, through the cycle, c'est-à-dire à l'intérieur d'un cycle normal et pas du tout prévu pour justement réagir lorsque l'on est dans un cycle anormal. Et donc, ce qui s'est produit, évidemment, c'est que ces agences ont du coup accéléré ce qu'on appelle la dégradation, le downgrade des différents opérateurs mondiaux, accélérant la déconfiture des marchés et l'inquiétude des marchés, et donc jouant, évidemment, de ce point de vue, un vrai rôle à l'intérieur de la crise. Mais toujours pareil, on est quand même là vraiment dans le bouc émissaire. D'une part, le dévoiement des agences, ce n'est pas les agences qui l'ont demandé. Évidemment, on va dire...
Elles ont participé, mais...
Disons, elles en ont profité, puisqu'on leur demandait de noter de plus en plus de produits. Et c'était l'ensemble du système bancaire, du système économique mondial qui leur demandait. Donc évidemment, des années de vache grasse pour ces agences. Mais est-ce qu'au fond, elles pouvaient se prononcer sur ce problème-là ? Ça n'était pas réellement leur travail. Le travail aurait été probablement de régulateurs extérieurs de poser la question. Or, ces régulateurs étaient eux-mêmes complices, puisque nous ne l'oublions pas, non seulement les banques, le système financier, mais bien entendu les États, et c'est là où tout à l'heure, quand on va probablement conclure, il faudra revenir là-dessus, les États ont été complètement concernés par la question. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où nous nous trouvons à la fin de l'année 2008, la question de l'indépendance et de la problématique des agences est posée doublement, puisque par rapport à ce que nous évoquions sur la dette américaine, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir dégrader la dette américaine ?
Si une agence... Pour l'instant, elles s'y sont refusées.
Pour le moment, elles étudient en tout cas la question, mais elles ne l'ont pas estimé nécessaire. On verra les effets du plan Paulson et les différentes conséquences de la crise financière si les finances américaines s'alourdissent aussi considérablement. Mais auquel cas, on voit bien qu'alors là, on sera vraiment dans quelque chose d'un peu compliqué, parce que est-ce que les agences ne risqueraient pas d'avoir une sanction très très dure de l'État américain autour de leur existence ou de leur mode de fonctionnement, parce que tout d'un coup, elles seront manifestées une certaine autonomie dans leur mode de fonctionnement direct. On est vraiment dans un problème très très complexe,
dans un cercle vicieux
dans lequel, toujours pareil, la responsabilité des agences telle qu'elle a été présentée en particulier par les politiques occidentaux est probablement très excessive quand on regarde réellement les faits et quand on regarde les recherches. Je ne vous parle pas d'un discours là qui serait simplement un discours convenu. On a eu de nombreuses recherches autour de ces questions qui sont toutes très intéressantes mais s'avèrent très complexes, en tout cas qui ne vont pas du tout dans le sens d'une simplification et d'un diagnostic rapide en disant voilà, nous avons isolé les coupables. Donc, si en réalité on regarde un petit peu, eh bien, qu'est-ce que l'on doit dire ? On doit dire que la vraie cause de la crise aujourd'hui, et vous voyez, quand on parlait des boucs émissaires, la manière de qualifier le terme de bouc émissaire, c'est de dire, mais est-ce qu'on peut dire que ce sont ces personnes ? Est-ce que c'est à cause des agences que nous sommes dans cette crise aujourd'hui ? La réponse est clairement non. Est-ce que c'est à cause des banques que nous sommes dans cette crise aujourd'hui ?
Idem.
La réponse est non. La vraie cause profonde de cette crise, c'est bien la dette énorme des États-Unis qui s'est constitué depuis 20 ans et en particulier depuis 2001. C'est, vous l'avez dit tout à l'heure, celui qui nous donne des leçons aujourd'hui ou qui nous explique que la situation est grave. C'est-à-dire c'est la politique d'Alan Greenspan et on va dire de l'État américain dans son ensemble qui a abreuvé les marchés d'une dette et qui a conduit les marchés, évidemment, à en profiter, les banques à en profiter, les agences de notation, comme on le disait, à connaître une période florissante, mais finalement à accompagner un processus dans lequel ces différents acteurs n'avaient pas le choix. C'est-à-dire qu'une agence qui aurait
ils étaient dans le système, en quelque sorte.
En disant, à partir du moment où on a décidé d'être fou, c'est-à-dire d'abreuver le monde occidental et surtout les États-Unis d'une dette ahurissante qui va constituer de la bulle, une bulle économique, et ce qui n'a pas raté d'ailleurs dans l'aspect immobilier, eh bien, il fallait que l'intendant suive les agences de notation, comme les banques d'investissement, comme tous les acteurs que vous avez évoqués tout à l'heure, c'était l'intendance de la finance. Elles ont suivi, elles auraient peut-être dû, à un moment donné, peut-être en tout cas alerter davantage, mais ça n'était pas leur rôle. Il y a à reconstruire autour du monde financier moderne une vraie réflexion pour que demain, si une telle mésaventure risquait de se produire, il y ait véritablement des acteurs qui aient pour rôle de réfléchir à la finalité du système, à la manière dont il fonctionne, à la manière dont certains le dévoient.
D'accord. Donc effectivement, il ne faut pas taper sur les outils. Les outils, ils font ce qu'ils le portent, leur demande de faire.
Absolument.
D'ailleurs, vous rejoignez tout à fait les conclusions du rapport de René Ricol sur la crise financière, où, en tout cas, il a cette approche de dire que les agences de notation financière ne portent pas l'essentiel de la responsabilité. Lui, bien sûr, focalise beaucoup plus sur les banques, alors que j'ai bien compris que vous avez une approche beaucoup plus large et vous ne pensez pas que ce sont les boucs émissaires qui ont fait la crise. C'est le système et surtout l'absence de recul par rapport au système, c'est-à-dire de réflexion beaucoup plus générale.
Hein. Peut-être juste pour conclure là-dessus, je dis bien c'est la Fed et peut-être que vraiment le bon exemple et ce qui est vraiment quelque chose qui pourrait être une vraie grande piste de réflexion pour demain, c'est la régulation telle que l'ont entendu les Européens avec la BCE.
D'accord.
Puisque la grande différence justement entre la Fed et la BCE, on l'a vu ces derniers mois, c'est que la BCE est bien dans une perspective technique de compréhension de la manière dont les choses fonctionnent et pas dans une illusion de recherche de politique économique et financière, je dirais, qui parfois comporte un certain nombre d'aléas que l'institution ne prend pas en compte.
Donc c'est une belle pierre dans le jardin des politiques que vous lancez en disant la BCE est dans son rôle et réfléchit bien sur les...
Absolument, et la BCE est la grande piste, à mon sens, à envisager aujourd'hui. Quand on va parler de régulation mondiale, la BCE est probablement le grand exemple que l'on va pouvoir envisager. Je vous rappelle que dans la régulation telle que l'envisage aujourd'hui les États-Unis, c'est la Fed qui est au centre. C'est-à-dire, particulier, on veut supprimer les différents acteurs de la régulation et mettre la Fed au centre. Eh bien, la BCE, si elle était équivalente du point de vue européen, si elle est équivalente du point de vue européen, est un exemple beaucoup plus intéressant que la Fed de la manière dont une vraie régulation peut se mettre en place, fondée sur des principe de bon fonctionnement technique et non pas sur des principes justement
quasi monétaires.
D'accord.
Bien, eh bien écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet entretien, extrêmement riche, mais ça ne sommes pas surpris. En conclusion, est-ce que vous pouvez nous délivrer tout de même un message d'optimisme et s'il y en a, où ?
Je crois que, on va dire trois choses. Première chose, c'est qu'une crise économique, c'est un peu comme le réchauffement climatique. C'est-à-dire, une crise économique, ce n'est pas un cataclysme, les flammes qui ravagent les grandes villes, etc. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien, qui entraîne une dégradation au quotidien de son niveau de vie, etc. Mais qui, finalement, n'est pas forcément perçu comme étant aussi cataclysmique que lorsque on se dégage et qu'on regarde ça d'un point de vue macroéconomique. Bon, il est clair quand même qu'évidemment, c'est vrai, cette réalité est d'autant plus vraie qu'on est riche. Donc c'est vrai pour les pays riches, beaucoup moins pour les pays pauvres. Et c'est vrai dans les pays riches, pour les personnes riches, plutôt que pour les personnes pauvres. Donc la crise, évidemment, est vécue différemment. La deuxième chose, c'est qu'une crise, on en sort. Donc un jour, on sortira de cette crise et il faudra regarder justement comment on est arrivé là et comment on aurait pu l'éviter. Et c'est peut-être le troisième message, c'est que d'ores et déjà, ce chantier doit être ouvert. C'est-à-dire, on doit commencer à réfléchir à la manière de construire une architecture qui va correspondre à un monde nouveau qui est en train de naître aujourd'hui. Ce monde, c'est un monde élargi dans lequel la place...
Il y a d'autres acteurs.
Absolument, dans lequel la finance et l'économie doivent avoir un rôle central, mais sur lequel on doit réfléchir à la philosophie de cette finance et de cette économie.
Réfléchir, donc voilà le mot quasiment de la fin. Philippe Dessertine, une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir apporter votre réflexion sans langue de, bois et avec un grand sens de la pédagogie, mais qu'on vous connaît et qui font de vous aujourd'hui un expert mondialement reconnu sur ces sujets. Merci de votre réflexion, merci d'avoir ouvert quelques voies nouvelles. Et le moindre de vos mérites, c'est de l'avoir fait avec lucidité et avec quand même, je sens toujours, un petit fond d'optimisme, malgré tout.
Bien sûr.
Merci encore à vous et à une prochaine rencontre. Au revoir.